Bien, bonsoir à tous et à chacun. Nous sommes réunis ce soir pour écouter Jean-Christophe Buisson pour son livre « Assassiné » publié chez Perrin. Jean-Christophe Buisson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né en 68, suivi deux années de Cagnes à Lyon, puis avez obtenu une maîtrise d'histoire. Parce que je dis tout ça parce qu'on vous écoute sur la première radio de France le soir en train de croiser le fer avec d'autres polémistes, mais on ne sait pas ça. Vous rejoignez l'école supérieure de journalisme, vous entrez au Figaro en 94. Et vous fûtes grand reporter et puis nommé rédacteur en chef des pages culture, toujours au Figaro.
Magazine.
Magazine. Journaliste et historien, vous nous livrez à mes yeux une véritable recherche de la psychologie des assassins et des assassinés. Et c'est là où je trouve votre livre remarquable. Vous avez réalisé un choix d'assassinat pour tenter, nous dites-vous, d'évoquer tous les types d'assassinats en montrant la variété des situations, démontrer que c'est bien la même motivation qui arme le bras des meurtriers, à savoir en finir avec un régime jugé illégitime et lui-même criminel, incarné par un individu que ces assassins haïssent. L'histoire est par essence tragique, aussi vous vous posez la question si tous ces hommes et ces femmes d'État dont vous tracez le destin auront tous sans exception exprimé leur certitude d'une fin tragique. Et on le verra, on abordera finalement trois assassinats, puisqu'on est un peu limité dans le temps. Enfin, finalement, il faut d'abord que vous nous expliquiez quel a été le départ de votre démarche pour ce livre. Parce qu'il y a eu quand même votre rencontre avec Zoran Djindjic qui a été importante pour vous.
Oui.
Donc il faut que vous nous expliquiez pourquoi ce livre et comment cet entretien l'a motivé.
Oui, comme vous l'avez dit, je suis d'abord journaliste et j'ai longtemps été grand reporter au Figaro Magazine avant de m'occuper de culture. Et dans le cadre de ces reportages, en 1996, je m'étais rendu à Belgrade, où se déroulaient à l'époque quotidiennement des grandes manifestations d'opposition à Milosevic. Et parmi les trois leaders de l'opposition démocratique à l'époque, figurait un homme qui s'appelait Zoran Djindjic, que j'avais interviewé, comme j'avais interviewé ces deux autres colistiers, si je puis dire. Et c'était un homme, si vous voulez, à l'époque, l'opposition était incarnée par trois figures. Il y avait un royaliste, une femme plutôt de gauche, et lui qui était plutôt de centre-droit. Donc je l'avais interviewé, lui, et qui avait été un élève de Jürgen Habermas en Allemagne, donc quelqu'un d'assez posé, de patriote, parce qu'en Serbie, il vaut mieux être patriote quand même, c'est le minimum, mais ce n'était pas du tout un nationaliste. Et lui, il envisageait évidemment de se débarrasser de Milosevic de la manière la plus démocratique possible. Et je l'avais interviewé, je lui ai demandé à un moment donné, mais vous n'avez pas peur d'être assassiné, parce que c'est un peu une spécialité de la Yougoslavie, d'assassiner les opposants, enfin comme beaucoup de régimes autoritaires. Et il m'avait fait une réponse très, que j'avais trouvé un peu pompeuse, en me disant, mais si mon assassinat peut servir la cause de la démocratie, si grâce à mon assassinat, mon pays peut enfin sortir des marécages du nationalisme, du militarisme, du national-communisme, pourquoi pas ? J'avais trouvé un petit peu prétentieux. Et puis les manifestations avaient continué, puis c'était arrêté, Milosevic était resté au pouvoir, et 4 ans plus tard avait finalement été renversé par un putsch auquel Zoran Djindjic n'avait pas participé. C'était plutôt un autre homme qui s'appelait Koštunica qui l'avait renversé, mais qui a pris Djindjic comme Premier ministre. Et dès qu'il est arrivé comme Premier ministre, il a mis en place la politique qu'il souhaitait, c'est-à-dire d'essayer d'arrimer la Serbie à l'Union européenne et surtout de nettoyer le pays de toute la mafia qui le corrompait, qui était d'ailleurs très liée au pouvoir communiste, par parenthèse, mais qui était restée dans les structures et qui se maintenait un petit peu au pouvoir. Et donc il était détesté des Serbes parce que Ils voulaient arrimer la Serbie à l'Union européenne. Or, l'Union européenne, c'était quand même cette Europe occidentale qui avait bombardé la Serbie pendant la guerre du Kosovo. Donc, on l'aimait moyennement. Et ensuite, ils voulaient évidemment livrer Mladic Karadzic au tribunal de La Haye. Il avait déjà fait livrer Milosevic. Et il y avait encore un fort courant nationaliste en Serbie. Donc, les Serbes ne l'aimaient pas. Et puis, un matin, il sort de son hôtel et il reçoit une balle en plein cœur d'un sniper à 200 mètres de lui, qui sera arrêté plus tard, dont on découvrira qu'il était proche de Milosevic et de la mafia, évidemment. Il est donc assassiné. Donc, moi, à l'époque, je me dis, tiens, j'ai rencontré un homme d'État qui pensait être un jour assassiné, qui l'évoquait et qui, en plus, l'a été. Mais surtout, son enterrement a donné lieu à une manifestation incroyable à Belgrade, puisque Belgrade est une ville qui compte 1 million d'habitants, et il y a 500 000 Belgradois qui sont venus défiler devant son cercueil. Or, comme je vous le disais, il était haï de la population serbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jour-là, les Serbes se sont dit, c'est l'assassinat de trop, c'est l'acte de violence de trop, on en a marre. On passe pour des fous furieux depuis des décennies à cause de Milosevic, à cause de notre caractère, à cause de notre histoire, parce que l'histoire de la Serbie est quand même une histoire assez tragique et violente. Mais maintenant, ça suffit. Il faut arrêter avec cette identité violente. Il faut sortir de là. Bref, un peu comme les Basques, il y a eu un attentat de l'ETA qui a finalement fait descendre des centaines de milliers de Basques dans la rue, qui sont plutôt patriotes, voire nationalistes, mais qui dit maintenant, ça suffit la violence. Et donc, rétrospectivement, je me suis dit, mais ce type avait tout deviné. Et effectivement, son assassinat a permis une sorte de réveil des consciences serbes en se disant, maintenant, on approche de l'Europe, on arrête avec cette culture de la violence. Donc ça, c'était un petit peu le point de départ de cette idée de livre. Le deuxième axe était cette formule de Karl Marx qui dit « la violence est la sage-femme de l'histoire ». C'est-à-dire que, malheureusement, pour avancer dans une société, pour que la société avance, à un moment donné, il faut un acte de violence, qui est parfois un acte fondateur, qui est un acte évidemment dur, d'autant plus dur à accepter aujourd'hui qu'on est dans des sociétés où on souhaite que ce soit des sociétés apaisées, démocratiques, tolérantes, et qui cultive des valeurs de tolérance et d'amitié, sauf qu'à un moment donné, pour avancer, eh bien, il faut un acte de violence.
En opposition avec Disraeli.
En opposition avec le Premier ministre libéral britannique Disraeli, qui disait qu'un assassinat n'a jamais changé l'histoire du monde, ce qui est faux. Évidemment, il y a un certain nombre d'assassinats que j'évoque notamment dans le livre, mais j'aurais pu en prendre 30 ou 40
qui
autres.
Était, qui était un homme remarquable,
bien sûr,
d'intelligence remarquable. Mais
même les hommes remarquables disent parfois des bêtises. Et donc tout ça a un peu bouillonné dans mon esprit. J'ai fait partager ce bouillonnement à mon éditeur, le directeur d'édition Perrin, qui s'appelle Benoît Hiver. Et ensemble, on a construit cette idée de livre, de juxtaposer un certain nombre d'assassinats qui ont changé, sinon l'histoire du monde, parce que c'est un peu prétentieux de dire que, par exemple, l'assassinat d'Indira Gandhi a changé l'histoire du monde. Non, ça n'a pas changé l'histoire du monde, mais ça fait bouger l'histoire de son pays, c'est-à-dire qu'elle a été assassinée par ses gardes du corps sikh, par des gardes du corps sikh qui se vengeaient de l'assaut de l'armée indienne contre le Temple d'Or à Amritsar quelques mois plus tôt. Et ces gardes du corps sikh espéraient relancer une guerre civile entre les sikhs et les hindous à l'occasion de cet assassinat. Et il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire que l'Inde s'est réunifiée derrière sa figure assassinée. De la même façon, le sudiste qui a assassiné Lincoln espérait évidemment relancer la guerre entre le nord et le sud, parce que le nord venait de gagner. Et il s'est passé le contraire. La réconciliation nationale américaine a été accélérée par cet événement tragique, y compris du côté des gens du sud qui, on l'oublie parfois, mais la guerre civile américaine a fait des centaines de milliers de morts, a ruiné le pays pour plusieurs années, et les gens en avaient assez justement de la violence. Et cet acte de violence, même si les sudistes n'étaient pas mécontents que leur adversaire Lincoln soit assassiné, ben finalement on dit bon, maintenant ça suffit, on se réconcilie avec le nord et on essaye de reconstruire le pays dans une forme de paix et de prospérité. Donc voilà, tout ça est né de là, et il me paraissait intéressant de juxtaposer avec des époques différentes, des modus operandi différents, évidemment des pays différents, des continents différents, de les mettre un petit peu côte à côte pour voir, pour que le lecteur, c'est-à-dire vous, peut-être, j'espère, voyez à la fin des constantes éventuelles dans ces assassinats, et je crois qu'il y en a.
Alors, il faut qu'on fasse un choix, donc ce soir, alors... comme je suis une sorte de sectaire et je suis autoritaire, donc j'ai décidé qu'on...
Vous voulez finir assassiné, quoi.
Oui, je serai assassiné, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a dans la salle déjà des gens qui m'attendent. On va commencer, à mon avis, avec un personnage que les Français connaissent peu, C'est Engelbert Dollfuss, qui était chancelier d'Autriche et surnommé
Millimetermensch.
Parce qu'il était petit, il mesurait 1m50, mais il habitait quand même dans l'hôtel, parce que l'hôtel de la chancellerie d'Autriche, oui, c'était l'hôtel de Metternich. Donc, d'où la raison. Alors, Palausplatz, depuis 1932, il s'y installe. Expliquez-nous comment on va arriver à cette fin tragique. Parce qu'il a été quand même, jusqu'à la fin, il a résisté et il s'est retrouvé un revolver sur la tempe et n'a rien accepté.
Oui, alors pour remettre en perspective, l'Autriche est devenue une république, évidemment, après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire austro-hongrois. La ville de Vienne est toujours restée une ville très à gauche, très socialiste, voire en alliance avec d'ailleurs avec le Parti communiste à une époque, et qui est une exception, parce que le reste du pays était plutôt un pays très paysan, très rural, très attaché à ses traditions, à sa foi, et Dollfuss incarnait cette Autriche traditionnelle. Et donc, à la fin des années 20, début des années 30, il y a une crise politique assez grave en Autriche, les chanceliers valsaient tous les deux jours, un peu comme les présidents du Conseil de la Troisième République en France. Et à un moment donné, c'est cet homme qui était ministre de l'Agriculture, qui était très compétent et qui avait vraiment des grandes vertus d'économiste, qui avait un petit peu remis sur les rails de l'économie le pays, catholique traditionnel, oui, très traditionnaliste, ouais. Et qui s'est retrouvé un peu par hasard, d'ailleurs, quand le président de la République autrichienne lui a proposé d'être chancelier, au lieu de répondre oui tout de suite comme le ferait tout le monde, il a dit « je réfléchis », il a passé une nuit de prière. Il est allé prier pendant toute une nuit et le lendemain, il a dit « d'accord ». Et donc, il est devenu chancelier et au mi-temps des années 30, et il a mis en place un régime relativement autoritaire, mais pas du tout totalitaire sur le modèle fasciste, mais assez autoritaire quand même, un petit peu plutôt sur le modèle de Salazar, avec une vision très traditionnelle encore du monde, et l'envie de faire d'une Autriche, de ramener l'Autriche vers ses traditions, encore une fois, très, très catholique et très paysanne. Inspiré un petit peu de la doctrine sociale de l'Église, des écrits de la Tour du Pin. Et comme ennemi principal, qui avait-il en Autriche en 1932 ? Eh bien, les nazis. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, Hitler ne rêvait que d'une chose dès son accession au pouvoir et même avant, puisqu'il l'écrit dès les premières pages de Mein Kampf, c'est l'Anschluss, c'est-à-dire réunir l'Autriche, son pays natal, avec l'Allemagne, considérant que l'Autriche n'a pas lieu d'exister, que l'espace germanique est un Reich et tous ceux qui sont germaniques doivent y vivre sans distinction de frontières. Donc il fait évidemment il souhaite très vite cet Anschluss et il fait faire de l'agitation par ses troupes, donc par les nazis autrichiens dès 1932-33. Et Dollfuss prend des mesures, d'abord des mesures de police contre l'agitation à la fois communiste et nazie dans son pays, et puis de plus en plus dures. Et puis un jour, au début 1933, au printemps 1933, un attentat est commis. Donc les Juifs, évidemment, se font maltraiter quasiment quotidiennement en Autriche. En Allemagne, on n'en parle même pas, puisqu'il y a déjà eu l'ouverture d'un camp de concentration à Dachau. Et en Autriche, ça devient de plus en plus violent, jusqu'au jour où un Juif est tué par l'explosion d'une bombe dans son commerce. Et que fait Dollfuss ?
Ça s'abat, toi.
Exactement. Que fait Dollfuss ? Il interdit le parti nazi en Autriche. On est en 1933, Hitler est déjà au pouvoir à côté, en Allemagne. Il interdit le parti nazi et il envoie dans un camp de concentration 5000 cadres du parti nazi autrichien. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'il fait exactement aux nazis ce que Hitler a fait à tous les autres partis politiques qui n'étaient pas nazis en Allemagne.
Donc, au même moment,
en 1933. Donc à quelques kilomètres de Dachau, qui est en Bavière, donc qui n'est pas très loin.
Donc ouverture à Wollersdorf. D'un camp,
5000, ou enfin un peu moins de 5000 cadres nazis qui sont...
5000 nazis, faut pas oublier que l'Autriche, c'est 6 millions d'habitants. Donc vous voyez à peu près 5000 personnes en proportion de 6 millions d'habitants, vous voyez à peu près la proportion.
Mais symboliquement, c'est assez impressionnant et beaucoup de nazis autrichiens fuient en Allemagne, se réfugient en Allemagne, évidemment, en espérant un jour prendre leur revanche. Et évidemment, Hitler ne reste pas sans réagir et organise des camps des camps d'entraînement de ces nazis autrichiens encadrés par des Allemands en espérant un jour reconquérir l'Autriche. Et c'est ce qui va arriver au début de l'année suivante. Entre-temps, il y aura un attentat, justement un premier attentat contre Dollfuss qui sera par un nazi l'automne 1933. Il recevra deux balles et après avoir reçu ces deux balles, il dira d'ailleurs « ce sont les risques du métier ». Donc assez, assez tranquille, il assumait totalement. D'ailleurs, souvent dans les assassinats, on s'aperçoit que les chefs d'État savent effectivement que ce sont les risques du métier et assument l'idée qu'ils puissent être un jour assassinés. Et puis donc début de l'année 1934... C'est pas une constante, mais c'est assez fréquent. On s'aperçoit que souvent ils en admettent l'augure. C'est ce qu'on a dans la pièce de Shakespeare, Jules César, où il fait dire à César qu'il faut mourir, nous savons, mais quand il faudrait mourir, voilà ce que l'homme voudrait savoir. Voilà, c'est tout simple. C'est qu'on accepte l'idée simplement. On voudrait que ce soit évidemment le plus tard possible, y compris chez les hommes d'État. Mais certains hommes d'État savent qu'en commettant certains actes, en faisant certains gestes, ils accélèrent le moment où ils risquent d'être tués et quand Dollfuss interdit le parti nazi, il sait très bien qu'il met le doigt dans un engrenage qui peut être fatal. Et puis au début de l'année 1934, il y a une grande agitation communiste en Autriche, donc il fait un petit peu la même chose, il se met à taper très fort sur les communistes qui se sont réfugiés dans plusieurs grands immeubles à la périphérie de Vienne, et il fait donner l'assaut qui est très sanglant, il y a des dizaines et des dizaines de morts du côté des communistes autrichiens, et c'est là évidemment il subit toutes les avanies des démocraties occidentales, parce qu'évidemment, quand on tape sur les, comme il a fait un régime autoritaire pour aller vite plutôt à droite, quand il tape sur les nazis, c'est bien le minimum, mais quand il tape sur les communistes, il devient pas très gentil. Donc même Léon Blum, les dirigeants socialistes français le regardent quand même avec un peu de méfiance, voire d'hostilité, alors qu'encore une fois, il poursuit une politique très anti-nazie. Mais comme il a tapé aussi sur les communistes, on le regarde pas très bien. Et en juillet 1934, Hitler passe enfin à l'action. Il a fait former 150 SS allemands qui passent la frontière clandestinement, qui arrivent à Vienne dans des camions, qui se déguisent en policiers et en gendarmes de l'armée autrichienne et qui prennent d'assaut la chancellerie de Vienne où se trouve à ce moment-là Dollfuss.
Dollfuss est... des ordres. Quand même des contre-ordres.
Oui,
personne ne comprenait pas ce qui se passait.
Bien sûr, on les voit en uniforme, on ne sait pas d'où sortent ces soldats, mais comme il était prévu que des soldats viennent justement protéger la chancellerie parce qu'il y avait des rumeurs de coup d'État nazi, on croit que ce sont ceux qui viennent protéger Dollfuss, alors que ce sont évidemment les putschistes qui arrivent. Ils investissent très rapidement la chancellerie, ils referment les portes. Et ils cherchent dans tous les couloirs Dollfuss, qui a compris assez vite que c'était des... Parce qu'évidemment, ils sont arrivés habillés en uniforme autrichien, mais totalement dépareillés, les casques de travers, les ceintures mal mises. Donc très rapidement, on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des membres de l'armée autrichienne. Donc Dollfuss tente un petit peu de trouver une issue de sortie. Quelqu'un lui en conseille une, quelqu'un lui en conseille une autre. Donc je raconte un petit peu tous les détails, un petit peu minute après minute.
Non, mais c'est plus... c'est là l'intérêt de cet ouvrage... Parce qu'on voit le début des situations, on analyse bien les choses et on voit le déroulement de l'assassinat.
Bien sûr, oui, le développement de...
C'est la première fois que je vois qu'on l'ait fait de cette façon.
Oui, parce que j'essaye de suivre autant l'assassin, le parcours et le destin de l'assassin que de l'assassiné.
Exact.
Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à connaître les assassinés, et puis les assassins tombent un peu dans les oubliettes de l'histoire, et puis on a toujours une empathie rétrospective pour la victime plutôt que pour le bourreau. Et je trouve toujours très intéressant d'essayer, sinon d'entrer dans la tête du bourreau, mais en tout cas de faire ce que Lucien Febvre a appelé un effort affectif pour comprendre la psychologie de ceux qui commettent des actes graves, autant que ceux qui les subissent. Et donc Dollfuss est poursuivi dans sa chancellerie et à un moment donné, plusieurs soldats SS donc, entrent dans la pièce où il se trouve, la porte du fond est fermée et l'un d'eux qui s'appelle Otto Planeta se dirige droit vers lui et il tire deux balles sur lui directement. Donc il s'effondre, il est seulement blessé et c'est là où l'histoire est fascinante parce que ces assassins qui ne le sont pas encore l'installent sur un canapé, il se vide de son sang mais il n'est pas encore mort. Et à ce moment-là, on se rend compte que le coup d'État que tentent les nazis en Autriche échoue totalement. Il y a quand même de forts combats, on en parle très peu, mais dans Vienne, dans Linz, dans Graz, dans plusieurs villes autrichiennes.
Tentative d'occupation de la radio.
Tentative d'occupation de la radio, qui est d'abord efficace dans un premier temps, puis, puis s'arrête. Donc les nazis, en une heure et demie, on s'aperçoit qu'ils ont échoué. Que l'Autriche, c'est important de le dire, en 1934, n'est pas du tout prête à accepter un régime nazi. Quatre ans plus tard, évidemment, elle acceptera volontiers l'entrée d'Hitler à Vienne, mais en 1934, elle n'est pas du tout dans cet esprit-là. Les Autrichiens ne sont pas comme ça, à cette époque. Et donc, très rapidement, les nazis eux-mêmes, à l'intérieur de la chancellerie, ont compris que c'était fichu. Et donc, il y a une négociation possible. Dollfuss est en train de se vider de son sang, mais il n'est pas mort. Grosso modo, si on fait venir un médecin, on arrête l'hémorragie, et puis on négocie, on le laisse vivant, et on sera peut-être emprisonné, il y aura un procès, mais vous ne donnez pas l'assaut. Pas du tout, les nazis qui sont évidemment bornés, c'est un euphémisme, le laissent se vider de son sang, et font pire que ça, pensent qu'il est tout à fait possible, si lui, qui incarne la légitimité autrichienne, annonce à la radio que finalement il a nommé un chancelier qui s'appelle von Rintelen, qui est le candidat des nazis, et bien d'une certaine manière, le coup d'État deviendra démocratique et ce chancelier pro-nazi prendra le pouvoir de façon démocratique. Et donc, Dollfuss est en train de mourir, on lui met le pistolet sur la tempe, ce que vous disiez tout à l'heure, et on lui dit « nommez von Rintelen chancelier et on appelle un médecin et vous serez soigné ». Et Dollfuss, laisse mourir, « non, je veux que ce soit Schuschnigg ». Il dit non, il faut que ce soit Rintelen. Non, ce sera Schuschnigg. Tout ça en train de se vider de son sang, de mourir, d'agoniser. Et il tiendra bon jusqu'au bout. Et évidemment, il mourra se vidant de son sang au bout de 3 heures. Et ça sera l'échec du putsch et puis la grandeur de ce petit homme que ses partisans donc appelaient Mili Metternich en référence au grand chancelier et que les nazis, eux, appelaient Mili Mettermensch. Vous savez que Mensch veut dire homme et millimètre Mensch, c'est un tout petit homme qui mesure quelques millimètres. Donc, avait retourné ce compliment, évidemment, en défaut. Et donc, Dollfuss est mort, mais il n'a jamais nommé von Rintelen. Donc, les nazis, ensuite, ont été arrêtés par la police légale autrichienne, ont été emprisonnés, condamnés à mort, exécutés. Ce qui a fait un sursis pour l'Autriche de quelques années, grâce à ce petit homme qui était, au fond, un grand homme. Tout simplement.
Ce qu'il ne savait pas, mais il a résisté jusqu'au bout.
Exactement.
Et c'est pour ça que je me suis dit, je voulais quand même que nous en parlions. Et ensuite, vous avez quand même travaillé, on abordera sur l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche et de sa femme.
Une soirée autrichienne, vous ne l'avez pas dit, mais.
Schotkova. Unfognin, fut quand même à l'origine d'un désastre, 20 millions de morts. Peu de familles françaises en furent épargnées. Je ne parle pas des shrapnelisés, gazés, ceux qui sont morts à coups de baïonnette, victimes du typhus ou d'un obus. Donc, je pensais que c'était important que nous en parlions. Mais je voudrais aussi quand même souligner que pendant ce temps-là, durant cette guerre 14-18, il y a eu toutes les femmes courageuses qui ont pris les choses en main, conduit les entreprises, conduit les exploitations agricoles, continué à nourrir leurs enfants. Il faudra quand même qu'elles attendent pendant 30 ans le droit de vote. C'est une chose qui m'énerve tout le temps. Parlons maintenant de François Ferdinand d'Autriche, maintenant que j'ai sorti ma bile. Et donc, parlons de cet assassinat qui était prévisible. On le savait, il le savait. Pour des raisons d'État, son oncle lui a refusé le fait de ne pas y aller. Ça fait quand même beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup.
Bon, vous me direz, Jean Descartes, que nous avons eu ici certains soirs, il y a la saga des Habsbourg et qu'ils ont été frappés d'une sorte de
malédiction.
Mais enfin, tout le monde savait.
Oui, mais c'était prévisible et évitable. Et évitable parce que quand on voit le détail de l'événement lui-même, c'est une succession de hasards malheureux qui ont fait que François Ferdinand a finalement été assassiné, alors qu'il y avait mille raisons pour que cet événement n'arrive pas, à commencer par le fait que ceux qui l'ont assassiné étaient quand même des jeunes gens qui avaient entre 16 et...
7.
Ils étaient 7, alors voilà. François Ferdinand...
5 mineurs.
Un musulman, ce que les gens ignorent souvent, qui s'appelait Mehmet Bachich.
Ce que les gens ne savaient pas.
Et d'ailleurs, ce que je raconte dans le livre, c'est que, d'une certaine manière, l'assassinat a été élaboré à la brasserie Le Bibent, que certains d'entre vous connaissent, à Toulouse, qui était la brasserie où Jean Jaurès écrivait ses éditos, d'ailleurs, pour l'Humanité. Puisque la Main Noire, qui est le mouvement nationaliste qui a donné les armes et les bombes aux jeunes gens qui sont partis de Belgrade pour Sarajevo pour assassiner François Ferdinand, la Main Noire pensant pas une seconde qu'ils y arriveraient compte tenu des consignes de sécurité qu'il y avait autour de François Ferdinand, mais pensant qu'après tout ça ferait des martyrs pour la cause, donc ils allaient essayer. Et en fait, ce Mehmet Bachich, qui appartenait à la Main Noire, était donc à la brasserie du Bibent, à Toulouse, et il a été désigné, lui, pour assassiner le gouverneur de la Bosnie, symboliquement. On lui a donné une arme. Et puis, quand il est parti de Toulouse à Sarajevo, il a pris un train. Dans le train, des contrôleurs faisaient leur métier, c'est-à-dire contrôlaient. Il a eu peur, il a jeté son arme par la fenêtre pour ne pas être arrêté. Donc, il est arrivé à Sarajevo comme un idiot sans arme. Et là, il a rencontré des jeunes gens qui lui ont dit « Mais rejoins-nous, on est en train de préparer un attentat. » Mais depuis, on a appris que non seulement on pourrait tuer le gouverneur, mais on pourrait tuer François Ferdinand, qui vient à Sarajevo le 28 juin pour des manœuvres militaires. Et donc, il s'est intégré à ce groupe de jeunes gens et a participé à l'attentat. Et ce qui m'intéressait pour raconter cet attentat, encore une fois, c'est le raconter beaucoup plus du côté des assassins, qui encore une fois étaient 7 et non pas un seul, ce qu'on dit souvent dans les livres d'histoire, Gavrilo Princip, qui est très connu, et d'une part, et d'autre part de montrer que non seulement ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient 7, mais que leur motivation était moins le nationalisme serbe, qui est devenu un petit peu la tarte à la crème de la pensée contemporaine, parce que ça tombe bien, à Sarajevo en 1992, c'était aussi des Serbes qui bombardaient la ville. Donc ça faisait, on bouclait la boucle, c'était à cause d'eux qu'on s'était entretués en 14-18, et puis c'est en 92 encore à cause d'eux qu'il y avait une guerre civile en Europe. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, notamment par le fait que leur motivation était vraiment la même que celle de tous les socialistes ou les romantiques ou les socialistes révolutionnaires qui ont traversé la fin des années 1880-90, début 20e siècle. Ceux qui ont assassiné aussi bien Alexandre II en Russie que le président Carnot à Lyon, que McKinsey aux États-Unis, que des ministres portugais, espagnols, Umberto Ier d'Italie. Donc c'est vraiment cette démarche, et on le voit très bien dans les écrits qu'ils ont laissés, et dans leur chef lui-même s'appelait Gatchinovitch, et c'était un des meilleurs amis de Léon Trotsky. Donc c'était ça qui les motivait. Ce qui les motivait, c'était la Bosnie est une région des Balkans qui est habitée par des Serbes, des Croates, des Juifs et des musulmans. Et tous ces quatre populations-là vivent dans un pays qui est administré, occupé par l'Autriche, donc qui n'a rien à voir avec ces quatre catégories de population, et de manière coloniale, c'est une espèce d'anticolonialisme avant l'heure. Donc il faut s'en débarrasser. Après, on verra comment on se partage le pays, mais la démarche de ces gens-là, c'était se débarrasser de l'occupant colonial autrichien. Pour ce faire, ceux qui leur donnaient le plus de moyens d'y parvenir, c'était évidemment les nationalistes serbes de Belgrade, mais pas le gouvernement serbe, contrairement à ce qu'on a dit à une époque, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en 1914, la Serbie vient de récupérer le Kosovo, vient de récupérer la Macédoine contre l'Empire ottoman. Ce sont des événements très importants parce que ça fait 5 siècles que ces régions, qui sont vraiment le berceau de la civilisation serbe, sont occupées par les Ottomans. Mais le pays a fait 2 guerres balkaniques. Le pays est épuisé, le pays est exsangue, le pays économiquement est dans une situation catastrophique. Donc ils n'ont pas du tout envie d'aller faire la guerre à l'Autriche, qui est évidemment beaucoup plus forte, même si c'est pour récupérer une partie de ces territoires dont on aimerait qu'ils se raccrochent à la Serbie. Donc c'est vraiment pas le nationalisme serbe en tant que tel qui les arme, mais plutôt ce mélange de... Le nationalisme serbe leur donne les moyens de leurs ambitions, qui sont les ambitions, encore une fois, de socialistes révolutionnaires qui veulent se débarrasser de l'occupant colonial autrichien. Donc, comme Jean Descartes connaît par cœur les Hazours et vous l'a très bien raconté, moi, j'ai raconté plutôt du point de vue de ceux qui vont commettre l'attentat.
Non,
c'est une boutade.
C'est ça.
Mais souvent, on les oublie
le côté
parce que
de votre livre,
on les traite
justement
un petit peu de spadassins chanceux. Parce que c'est vrai que au départ, ils arrivent miraculeusement à traverser la frontière parce qu'évidemment, en Bosnie, les Autrichiens surveillent la Bosnie. Ils savent qu'il y a des jeunes Serbes qui viennent, qui veulent venir non seulement se débarrasser de l'occupant colonial, mais il y a aussi une autre motivation qu'on ne raconte jamais, c'est qu'en juin 1910, le gouverneur de la Bosnie, qui était autrichien, qui s'appelait Varechanin, se promenait exactement à l'endroit où sera tué François Ferdinand, mais sur le quai Apple, au bord de la Miljacka, qui est la rivière qui traverse Sarajevo. Et un jeune Serbe de 18 ans arrive vers lui et lui tire dessus 4 balles. Et il échappe aux 4 tirs. C'est-à-dire que le Serbe tirait, peut-être qu'il avait bu un peu de Slivovitz avant, en tout cas, il le rate 4 fois. Moins drôle, la 5e balle, il se la réserve, il se suicide, parce qu'il a raté son attentat. Et là, le gouverneur autrichien descend de son...
Sort de la bagnole.
Sort de son, voilà, de sa voiture, s'approche du corps et donne un petit coup de pied dedans et dit « imbécile ». Il le traite d'imbécile en lui donnant un petit coup de pied méprisant. Et ça... Mais on ne se rend pas compte, mais ça a traumatisé tous les Serbes de Bosnie, de Serbie, de toutes les régions. Ce côté, c'était une métaphore voilà, des Serbes de Bosnie occupés par l'Autrichien, qui les traite par le mépris, qui les traite d'imbéciles, après que l'homme a quand même commis un acte héroïque et finalement il s'est tué lui-même pour une cause. Bon, on peut discuter de cette cause. Et ce mépris vraiment motivait les jeunes gens qui voulaient assassiner, qui voulaient aussi venger. C'est toujours plus facile de venger la mémoire d'une personne incarnée. Et donc, on peut dire, on voudrait se débarrasser des Autrichiens, c'est une chose, mais on voudrait se débarrasser des Autrichiens et en plus venger un de nos camarades mort il y a quelques années, ça donne une motivation supplémentaire. Et donc, le fameux 28 juin 1914, ils se sont retrouvés à 7, ils se sont mis le long du pont en attendant que la voiture officielle passe. Et déjà là, c'est assez miraculeux qu'ils soient arrivés jusque-là, qu'ils aient réussi à acheminer des armes sans se faire arrêter, parce que tous ces gens-là sont évidemment connus, et qu'il y a une police locale qui se méfie. Il y a plein de rumeurs selon lesquelles, évidemment, il peut y avoir un attentat. Et ils s'installent, et la voiture passe. Le premier qui est supposé...
Pas toujours très futé, hein, au point de vue de la préparation.
Ah non, c'est, ils ont un côté pied nickelé, que je raconte dans le détail.
Ils racontent dans le détail. Alors, vous avez surtout un des éléments qui s'appelle Gavril, que vous suivez durant tout le temps et son évolution. Et c'est là où je trouve que le bouquin est remarquable, parce qu'on voit l'évolution, on voit la construction et les raisons pour lesquelles les choses se font.
Et donc cet attentat, l'événement lui-même échoue une première fois, puisque quand la voiture passe avec François Ferdinand, le premier qui doit lancer sa bombe, c'est justement le musulman qui s'appelle Mehmet Bachic, et il a peur. Il s'enfuit en courant. D'ailleurs, ça sera le seul qui ne sera pas arrêté, puisqu'il s'enfuit tout de suite et il va s'enfuir au Monténégro, d'ailleurs. Le deuxième dira plus tard, lors du procès, que dans la ligne de mire, il a vu la duchesse, donc il a eu peur de la tuer, parce qu'il voulait bien tuer François Ferdinand, mais pas sa femme, et parce qu'il aimait les femmes comme vous, donc il a eu des craintes et il a retenu son bras. Le troisième a prétendu que son arme s'était enrayée. Enfin, il n'y en a qu'un qui a le courage de lancer une bombe. Et la bombe rebondit. Ils ont des bombes qui ont des détonateurs qui à 12 secondes, je crois. Donc normalement, il faut attendre, l'envoyer grosso modo à 8 ou 9 pour que quand la bombe arrive sur le carrosse, elle explose à la 12e seconde. Lui, il la lance une fois qu'il a compté 1. Donc évidemment, la bombe est lancée, 2, 3, donc le carrosse passe, 4, 5. Et donc c'est la voiture qui derrière qui est touchée. Et c'est là où les circonstances, les coïncidences malheureuses pour François Ferdinand commencent. C'est-à-dire que la bombe explose, ne fait pas de victime sinon un officier de la suite impériale qui est envoyé à l'hôpital. François Ferdinand va à l'hôtel de ville, il y a une réception, il est très énervé, il fait savoir son mécontentement parce qu'on a quand même attenté à sa vie. Voilà, merci, bonjour l'accueil à Sarajevo.
Le maire qui prépare un discours
et qui se fait gentiment envoyer sur les roses. Et là, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire pour un service de sécurité digne de ce nom, c'est soit on repart directement en Autriche très rapidement, soit on va dans la caserne militaire autrichienne à côté, on annule la visite qui est prévue. Ben non, lui décide d'annuler la visite, mais quand même d'aller voir l'officier qui a été blessé à l'hôpital. Donc de refaire le trajet inverse, une partie du trajet inverse. Sauf que la voiture dans laquelle il se trouve, le chauffeur n'a pas compris la consigne et pense qu'on fait la visite normale. Donc au lieu de suivre le quai, à un moment donné, il tourne à droite. Ici est la rivière. La voiture a fait comme ça. L'attentat a eu lieu. La personne qui a jeté la bombe l'a jeté là où je suis. Donc, la voiture arrive à l'hôtel de ville, repart dans ce sens-là, donc l'après-midi. Donc un des officiers de sécurité de François Ferdinand se dit, il faut que je me mette du côté de la rivière s'il y a un nouvel attentat, pour le protéger, pour faire barrage de mon corps. Voilà.
Arar se met de l'autre côté.
Se met de ce côté. La voiture repart, donc doit aller tout droit, et le chauffeur, qui n'a pas compris la consigne, tourne à droite. Il tourne à droite où ? Devant un café. Qui se trouve devant ce café ? Gavrilo Princip. Et la voiture tourne à droite, et quelqu'un dit au chauffeur, mais non, il ne faut pas aller là, il faut s'arrêter. Donc la voiture s'arrête pour faire marche arrière, mais devant Gavrilo Princip. Et puisque le garde du corps est de ce côté, il est de ce côté-là quand la voiture monte, et Gavrilo Princip, évidemment, est de l'autre côté. Donc il n'y a personne entre lui. Il se retrouve à 20 cm de François Ferdinand. Il a juste à faire ça, et à tirer et à assassiner. Donc rien que cet événement-là, il y a 15 incidents qui auraient dû faire que ça ne se déroule pas. Donc à un moment donné, on finit par croire une sorte de déterminisme dans l'histoire localement, parce qu'il était écrit, et de fait, il était écrit que Allemand, Russe, Anglais, Autrichien, Français, Turc, Bulgare avaient envie d'en découdre en 1914. C'est une évidence. Tout le monde cherchait le déclic. Mais personne ne voulait assumer la responsabilité du déclenchement des opérations, parce qu'on se doutait qu'avec le jeu des alliances, la conflagration serait internationale. Et donc il est évident que si Gavrilo Princip n'avait pas tué François Ferdinand, il y aurait eu un autre événement qui aurait déclenché la Première Guerre mondiale. Il se trouve que c'est tombé, si je puis dire, sur lui, et que c'est son nom que l'histoire aura retenu. Mais voilà, moi je voulais un petit peu raconter tous ces détails-là, toutes ces choses-là qui sont souvent mal ou non expliquées, notamment dans les livres d'histoire.
Non, et vous l'avez remarquablement bien fait. Je trouve, et on suit bien l'évolution au point de vue de l'esprit des gens et des acteurs. Pour terminer, alors je vais choisir le fait que on a eu quand même en 1989 l'effondrement du mur et de Berlin, et qui a été quand même l'événement qui nous a marqué, en tout cas, je l'espère, le plus qui nous a le plus marqué. Et je voudrais qu'on parle de ce triste couple des Ceausescu, parce que c'est quand même terrible. Les Ceausescu, c'est le procès vu à la télé.
Oui,
je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça à la télé. On les a vus sortir de l'écran, et je me souviens très bien, on a entendu les coups de feu sortir. Moi, personnellement, j'ai pensé, en train de dire, bonne vieille méthode du KGB, ils les ont descendus. Je pense que je ne suis pas loin de la situation. Parlez-nous des Ceausescu.
C'est le cas. Alors, c'est exactement le cas peut-être le plus typique dans ce que j'ai choisi, le fameux effort affectif que je demande, dont je parle. Les Ceausescu, on aurait mille raisons de considérer que c'était des monstres absolus, et ils l'étaient, et si vous parlez aujourd'hui à des Roumains, ils vous rappelleront qu'ils l'étaient. Et en même temps, les dernières heures de leur vie, et notamment la diffusion de ce procès à la télé, nous les a presque rendu sympathique, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce procès. On se sentait manipulé, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et quand on abat un régime dictatorial ou autoritaire, en l'occurrence le régime, qu'il soit communiste ou autre, on a envie de le faire pour des raisons qui sont des raisons démocratiques, des raisons d'humanité. Et on est quand même gêné quand ça se passe comme ça. Et on est d'autant plus gêné que finalement, c'est ce que je rappelle dans le livre, on l'a oublié, mais c'est vraiment... Ils avaient raison quand ils disaient « c'est un complot de l'étranger, c'est un coup d'État qui vient d'étranger ». Eux, ils pensaient plus évidemment aux Américains, aux Occidentaux. En l'occurrence, la chute de Ceausescu, c'est Gorbatchev qui l'a provoqué, qui l'a décidé, qui l'a organisé. Donc leur paranoïa n'était pas totalement infondée, puisque Gorbatchev avait très vite compris que le régime soviétique était en train de s'effondrer de l'intérieur, socialement, économiquement, et qu'il était temps de le réformer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et si possible en conservant peu ou prou les structures.
Il l'avait expliqué à Honecker.
Oui.
Et il est venu et il a expliqué au Tchaïkovski.
Et puis les
Tchaïkovski n'ont pas compris.
Voilà,
il a expliqué. Odecker n'a pas compris.
Pas très bien, mais un petit peu. Mais les Polonais ont fini par le comprendre, les Tchécoslovaques l'ont compris, les Hongrois l'ont compris. Et les seuls qui n'ont vraiment pas compris, c'est les Tchaïkovski. Et Gorbatchev, pourquoi il voulait ça? Parce qu'il se disait que il sentait que le système allait s'effondrer tout seul. Et s'il s'effondrait, la Russie, la vieille Russie, la Russie traditionnelle, risquait de perdre son influence dans la région au profit, évidemment, des Américains. Donc il anticipait la chute du régime communiste dans toute l'Europe de l'Est en réformant de l'intérieur ce régime pour pouvoir garder la main sur toutes ces régions d'Europe de l'Est, d'Europe des Balkans, d'Europe orientale. Et donc tout le monde avait à peu près compris ce discours, encore une fois, sauf les Tchaïkovski. Donc il s'est dit, à un moment donné, il a convoqué à Moscou ses amis Ion Iliescu et Petré Roman, et il leur a dit, voilà, on va organiser quelque chose de telle sorte que le régime va s'effondrer et vous prendrez sa place. Mais pour le faire.
Petré Roman, je vous cite bien que les Français étaient en admiration devant Petré Roman, qui parlait très bien le français, parce qu'il parlait très bien le français.
Parce que beaucoup de Roumains parlent
quand même
français.
Mais qui était quand même appointé par les Soviétiques.
Bien sûr. Voilà. Non, mais Petré Roman est passé très vite pour le symbole de la résistance au régime dictatorial des Tchaïkovski, ce qui était en partie vrai, même s'il avait un passé assez lourd de dirigeant communiste qu'on a très vite effacé et oublié. Et donc l'affaire de Timișoara était très révélatrice. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis journalistes à l'époque. Je n'étais pas encore dans le métier, mais des grands reporters qui ont couvert Timișoara, qui tous aujourd'hui ont ça en travers de la gorge. C'est qu'ils se sont fait manipuler de manière absolument admirable. Et aujourd'hui encore, ça, c'est pour certains d'entre eux, c'est une tâche dans leur carrière de s'être fait avoir comme des bleus, comme ça, à l'époque. Puisque, en deux mots, à Timișoara, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pasteur luthérien local qui était menacé de mutation dans une autre ville. Et les gens de Timișoara l'aimaient bien, donc manifestaient tous les jours devant son temple pour dire non à sa mutation. Il y avait 50 personnes par jour. Et puis un jour, une des manifestations, ils n'étaient pas 50, ils étaient 300. Et au lieu de juste de manifester leur colère, leur mécontentement, ils sont allés dans le centre-ville, ils ont cassé deux, trois vitrines. Et évidemment, ça a enclenché le processus très classique de la répression, provocation, répression. Et donc, ils ont cassé non seulement des vitres, mais ils ont attaqué le parti local, enfin le siège du parti communiste local. Mais il n'y avait personne à l'intérieur, ils ont lancé un cocktail Molotov. Et les Tchaïkovski, qui ne connaissaient que la brutalité comme type de réponse aux manifestations qu'ils appelaient des hooligans, ils ont tiré dans le tas, il y a eu des premiers blessés, puis il y a eu des morts, et tous les jours, la manifestation a grossi. Les journalistes, notamment occidentaux, sont arrivés et on leur a raconté complaisamment des histoires à dormir debout, de femmes éventrées, de génocide, d'arabes qui arrivaient d'Iran pour participer à la répression, etc. Et tout le monde gobait ça, parce que ça faisait une histoire, c'était spectaculaire, c'était beau, c'était, quand on est journaliste, on a envie d'histoires comme ça, énormes, tragiques, fortes. Et donc tout ça a été relayé. Et donc plus. Je bats ma coulpe pour eux et pour moi avec. Et donc ça a pris une ampleur évidemment énorme, et les Tchaïkovski s'enferraient dans le. Et évidemment, ils étaient mal conseillés, puisque parmi leurs conseillers, certains étaient déjà en cheville avec Moscou, avaient déjà prévu tout ça, donc ne faisaient que les pousser vers une forme de répression qui ferait des martyrs, qui ferait qu'ils seraient mis au banc de la communauté internationale et qui faciliterait leur renversement, ce qui est arrivé. Donc après, je raconte un peu en détail. Tout le processus de la grande manifestation, du grand meeting, puisqu'on lui dit « faites un meeting, cher président, devant les travailleurs, vous allez être soutenu », alors qu'on sait très bien qu'il n'y a plus aucun travailleur qui le soutient et que sur la grande place de Bucarest, il n'y aura que des étudiants et des opposants qui vont s'opposer à lui, qui vont le siffler, et c'est là où il comprend. Donc il s'enfuit par hélicoptère. Le pilote de l'hélicoptère lui-même fait partie des putschistes, donc il prétend qu'il ne peut plus, il n'y a plus d'essence, donc il atterrit n'importe où, ils font du stop dans une voiture, on les emmène dans une ville. Très vite, dans cette petite ville, on apprend que les Tchaïkovski sont là, des ordres sont donnés pour qu'on vienne les emmener dans une caserne pour les protéger de la foule. En fait, c'est évidemment pour les enfermer, les juger par un tribunal ad hoc qui est composé de gens qui sont évidemment font partie du complot. Et en une heure, ils sont condamnés pour génocide, crime de guerre, enfin, je ne me souviens plus les détails, mais enfin quelque chose.
Vous qui avez suivi.
Mais on se souvient de ça par bribes.
La voix de Jiko Popa est encore dans mon oreille.
Absolument. Et puis les cris de. de Elena qui comprend, enfin Elena Ceaușescu, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui les insulte, qui les accuse, qui leur dit mais vous n'êtes pas un tribunal légal. Ce qui est la vérité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est la tâche qui reste dans cette affaire, c'est que on aurait voulu les juger, on aurait voulu qu'ils aient un procès de Nuremberg comme d'autres dirigeants, et ils le méritaient sans doute, et peut-être sûrement qu'ils méritaient d'être condamnés, mais pas comme ça, pas avec cette vitesse-là, parce qu'évidemment ils avaient beaucoup de choses à dire sur ceux qui les chassaient du pouvoir, qui avaient été les complices de ce même pouvoir pendant des années et qui venaient juste de prendre le bon virage sur ordre de Moscou, encore une fois.
Donc Elena a terminé en train de dire « Dégage, fils de pute à de ses gardiens ». Terrible, cette fin est terrible.
Et les assassinats, alors on peut considérer ça justement comme un assassinat d'État. Les assassinats d'État, il y en a eu plusieurs, justement, que j'évoque dans le livre, comme celui de Lumumba en Afrique, qui pour le coup est un assassinat d'État par les États-Unis, par la CIA, ou de Ngo Dinh Diem au Sud-Vietnam, de la même façon, qui est un assassinat organisé par les Américains. Donc ce n'est pas une spécialité que de Moscou et des Soviétiques. L'assassinat d'État existe, a existé, et aujourd'hui encore, évidemment, se porte, notamment dans certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique, plutôt bien.
Dites-moi, finalement, est-ce que les assassins sont arrivés à ce qu'ils attendaient ? Sur l'ensemble des cas que vous avez étudiés ?
Heureusement, l'histoire n'est pas une science exacte. Donc, effectivement, beaucoup d'assassinats aboutissent à l'effet inverse souhaité par les assassins. Pour prendre l'exemple de César, ceux qui assassinent César en 44 avant Jésus-Christ, le font en estimant que César est en train d'avoir une dérive monarchique et de restaurer la monarchie dans ce qui est alors encore la République romaine. Il est empereur, mais empereur ne veut pas dire empereur dans notre acception contemporaine du terme. À l'époque, empereur, c'est le premier magistrat de Rome, c'est le chef de l'armée, c'est le premier représentant du Sénat. Mais c'est une république. Il représente les élus, les sénateurs, l'Assemblée. Et on a l'impression qu'il est en train de multiplier les symboles, qu'il laisse penser qu'il veut restaurer la monarchie à Rome. Donc ces assassins l'abattent pour cette raison-là, en disant qu'il est en train de restaurer la monarchie. Or, qu'est-ce qui va se passer ? 40 ans après sa mort, l'Empire va être proclamé. Donc, en fait, ceux qui voulaient sauver la République n'ont fait que précipiter sa chute. De la même façon, comme je disais tout à l'heure, les Sikhs qui ont tué Indira Gandhi ou Booth qui a tué Lincoln, leur geste n'a fait qu'aller dans le sens contraire à celui qu'ils espéraient. Ceux qui ont tué Alexandre II, l'empereur Alexandre II, qui était le tsar libérateur, le plus modéré, si je puis dire, des tsars depuis des siècles, et qui était en train de rédiger une constitution, donc était en train de libéraliser la Russie au point de la transformer en une monarchie semi-constitutionnelle. Il a été assassiné par des révolutionnaires russes qui considéraient que le régime autoritaire russe tenait dans une main de fer les paysans, les ouvriers, et qu'il fallait plus de pain, plus de liberté pour le peuple. Une fois qu'il a été assassiné, qui a hérité du pouvoir ? Son fils Alexandre III, qui a remis un coup de vis dans le régime. Donc d'un point de vue purement politique, purement stratégique, c'est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que la monarchie se tempère, en Russie, elle s'est durcie. Après, on peut discuter pour Robespierre, parce que l'assassinat de Robespierre a eu l'effet souhaité, c'est-à-dire d'arrêter la grande terreur qui était en train de recommencer en France sur Robespierre. Donc cet assassinat, pour le coup, a un effet très, très bénéfique. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Encore une fois, l'histoire n'est pas une science exacte, Dieu soit loué. Mais je dirais que dans trois quarts des cas, effectivement,
terrible de lire l'évolution des choses, mais il l'analyse tellement bien qu'il faut absolument que vous lisiez. Merci de votre attention et à très bientôt.
Merci.